et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Virginie Boer et Michel Clément. Le 15 décembre 2021, la Tbourida marocaine est entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter cet art équestre qui se pratique également en Algérie et en Tunisie. La Tbourida est également connue sous le nom de Fantasia. Nous devons ce terme au peintre Eugène Delacroix, qui lui donne par erreur le sens de spectacle équestre. D'origine grecque ou espagnole, le terme est passé dans les dialectes du Maghreb pour signifier panache ou gloire. Delacroix assiste pour la première fois à une fantasia au Maroc en 1832. Au cours de son voyage, il aura l'occasion d'en voir d'autres qui l'impressionnèrent toutes fortement. De retour en France, le peintre réalisera une aquarelle et quatre tableaux à l'huile, dont la fantasia marocaine, peinte en 1847, et qui deviendra dès lors synonyme de jeu de poudre. Delacroix ne sera pas le seul artiste fasciné par la fantasia. Parmi les plus célèbres, citons également Eugène Fromentin, qui s'est pris lui aussi d'une passion pour les chevaux du Maghreb, à une époque où l'orientalisme était à la mode. Alors, comme l'a expliqué le comité d'évaluation des candidatures de l'UNESCO, la Tbourida est, je cite, « une discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération et qui contient des éléments essentiels de l'identité culturelle et de la mémoire collective du Maroc et de ses régions et ses communautés ». Fin de la citation. En effet, chaque tribu compte une ou plusieurs troupes de Tbourida. En 2017, on en dénombrait près d'un millier dans tout le Maroc. Alors de quoi s'agit-il exactement? La Tbourida est l'expression d'une ancienne tradition guerrière. C'est la reconstitution d'une charge de cavalerie de guerriers arabes et berbères qui se termine par un tir synchronisé de fusil. Le nom de Tbourida est en arabe dialectal dérivé de baroud qui signifie poudre à canon. Il incarne l'art équestre traditionnel marocain qui remonte au XIIIe siècle et dont l'apparition a été établie par les historiens au XVe siècle. Autrefois, les tribus célébraient leur victoire avec la Tbourida en montrant leur savoir-faire équestre, leur manipulation du fusil et la beauté de leur harnachement. S'il n'y a plus de guerre aujourd'hui, le rituel est resté bien vivant, même s'il a connu un certain déclin à la fin des années 1990 dû à l'exode rural, au vieillissement des cavaliers et au désintérêt des jeunes Marocains plus intéressés par les loisirs autour des nouvelles technologies. Néanmoins, ce savoir-faire équestre continue de se transmettre de génération en génération, sauvegardant le patrimoine arabo-amazigh. Historiquement, les Tbourida avaient lieu pour fêter la fin des saisons agricoles. Elles regroupaient donc des cavaliers agriculteurs et des éleveurs. Elles sont toujours très populaires dans les campagnes, où elles sont également associées aux festivités qu'on appelle les moussem et qui sont des festivals annuels, mais également aux mariages ou autres rites religieux. Notamment, il y a des Tbourida pour célébrer la fin du Ramadan. Il existe des concours régionaux et interrégionaux pour les troupes de cavaliers de Tbourida. Les meilleures d'entre elles se retrouvent au cours de deux grands événements, la finale du trophée Hassan II de Dar Salam et le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Salon du Cheval d'El Jadida, qui sont organisés par la SOREC, la Société Royale d'Encouragement du Cheval. Chaque village et ville a son propre tournoi et sa troupe appelée Sorba. Chacune est composée de 15 à 25 cavaliers. Le nombre doit toujours être impair. Sous les ordres du chef de troupe, le Mokadem. Son rôle consiste à représenter la troupe auprès des organisateurs de ces événements et de coordonner le mouvement des hommes et des chevaux. Les cavaliers sont alignés les uns à côté des autres et le Mokadem se place au milieu. C'est généralement le plus âgé et le plus expérimenté des cavaliers. Les troupes comportent toujours des éleveurs, mais également des artisans, des commerçants et des cavaliers issus de professions libérales. Si les cavaliers vivent majoritairement à la campagne, de plus en plus de citadins, notamment d'origine rurale, intègrent les troupes. Avant le tournoi, ou l'événement auquel ils participent, les cavaliers font leurs ablutions et prient ensemble, donnant ainsi une portée spirituelle à la Tbourida. Puis, ils se présentent en ligne. Si c'est un tournoi, les équipes se attendent de passer l'une après l'autre. Alors, pour les avoir vues de près, on est frappé par le calme des chevaux qui sont tous des étalons. La Tbourida se déroule sur une piste de sable appelée Marek. Elle fait 200 mètres de long et 70 mètres de large et comprend des aires de sécurité. Autour de cette piste, des espaces sont aménagés pour les spectateurs. Ce sont les communes qui mettent à disposition des lieux sur lesquels se dérouleront les bourridas. Parfois, certains ne sont installés que de manière éphémère. Tout commence par la Hada, une parade au trot qui permet aux cavaliers de montrer la beauté de leurs vêtements et de leurs montures, de leur harnachement, de leur dextérité en selle et dans le maniement du fusil. Après ce salut de la troupe à l'assistance, la sorba revient se mettre en place à son point de départ. Puis vient le cœur de l'épreuve, la talka. Il s'agit d'une charge au galop. Au signal donné par le mokadem, la sorba s'élance, puis vient le signal du tir, avant que les cavaliers n'arrêtent brusquement la charge de leurs chevaux devant le jury du tournoi et les spectateurs, avant de se retirer. Alors, j'ai eu la chance d'assister à un tournoi à El Jadida et je dois vous dire que c'est extrêmement impressionnant de les voir charger vers vous et s'arrêter en plein galop à quelques mètres. Pour que la charge soit réussie, il faut que les cavaliers restent alignés en parfaite synchronisation avec leur monture et que les tirs soient simultanés, ne faisant qu'un. C'est à nouveau au mokadem de guider la troupe pendant la charge et de s'assurer de l'alignement et de la synchronisation. Lorsqu'il y a des concours, ceux-ci récompensent notamment l'alignement parfait, la qualité du départ, la tenue des cavaliers, le harnachement des chevaux, l'art dans l'exécution du jeu de fusil et la précision et la simultanéité des détonations. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons maintenant écouter de la musique guana traditionnelle. Il faut savoir que la musique et les chants traditionnels marocains font partie des éléments immatériels associés à la bourrida et retenus comme tels par l'UNESCO. cours de notre émission consacrée à l'Atbourida. Si cet art équestre marocain était essentiellement réservé aux hommes, il existe également des troupes formées par des jeunes cavaliers de 11 à 16 ans et depuis 2005, des troupes de cavalières. On doit la création de ces dernières à feu son Altesse la princesse Lala Amina, qui a été la présidente de la Fédération des sports équestres au Maroc. En 2017, on comptait 25 troupes de jeunes cavaliers et 5 troupes féminines. L'Atbourida reconstitue un rituel ancien, donc celui d'un départ collectif à la guerre. Aussi, les cavaliers portent-ils des tenues traditionnelles réglementaires. Elles comportent des caftans homogènes, simples ou brodés, des serouals, pantalons traditionnels, des selams, grandes capes en laine, des rezas, turbans entourés sur la tête. Des tmags, bottes équestres traditionnelles en cuir souple brodé, mais certains cavaliers portent également des babouches. Le dalil el kerat, un coran contenu dans un petit sac. Et enfin, le kenjar, poignard contenu dans son fourreau. Les costumes sont de couleurs différentes, propres à chaque équipe ou région. Par exemple, dans le sud, région désertique, les cavaliers portent des caftans bleus qui permettent immédiatement de les identifier. Ils sont les seuls à porter des caftans de cette couleur. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que ces cavaliers sont également les seuls à tirer vers le bas, tous les autres tirant en l'air. La raison à cela est liée à la stratégie de la guerre dans le désert. En effet, lorsqu'on tire dans le sable, cela crée un nuage de poussière qui permet aux cavaliers de s'échapper et de se dissimuler. Ces cavaliers du désert montent généralement tête nue, alors que tous les autres portent un couvre-chef, un petit turban ou un petit chapeau traditionnel. Les fusils qui sont utilisés ont des crosses ciselées incrustées de nacre. Les chevaux, eux, sont harnachés avec des selles et des bridons traditionnels. Les selles, les tapis de selles et les bridons sont conçus et décorés à l'ancienne. Les villes de Fès et Marrakech sont les plus importantes en ce qui concerne l'artisanat marocain. Et c'est à Fès que l'on trouve les maîtres selliers. Chez un maître sellier reconnu, une selle coûte environ 4000 euros et pèse entre 11 et 17 kilos. L'histoire de la selle traditionnelle remonte au XIVe siècle. Les selles marocaines sont les seules du Maghreb à être toujours fabriquées à la main. L'arçon est en bois d'olivier ou d'oranger, donc l'arçon c'est le siège qui se trouve sous le cuir. Le pommeau et le trousquin sont très relevés et encadrent le siège. Plusieurs éléments indépendants les uns des autres entrent dans la composition de la selle. Une chemise en cuir de mouton brodée avec un fil de soie est enfilée sur l'arçon. Elle a subi un tannage végétal traditionnel. Puis, une seconde en cuir de veau brodée vient la recouvrir. Son tannage est au chrome car cela lui permet d'absorber la sueur. Les broderies ont nécessité des mois de travail et sont réalisées par des femmes qui s'en sont fait une spécialité. Le tapis de selle est fabriqué en feutre. Il est très épais car il comprend 7 à 10 épaisseurs cousues entre elles. Certaines peuvent être de couleurs différentes. Un tapis de cuir brodé vient s'y superposer. La partie centrale de ce tapis ne possède pas d'ornement car c'est là que l'on va placer la selle. Une sangle fixée à l'arçon permet d'ajuster la selle et le tapis sur le dos du cheval. Les étriers sont à plancher plat, ils sont en cuivre, décorés et composés de plusieurs parties soudées entre elles. Ils sont également fabriqués à Fès. Ils sont fixés à la selle par des cordons très solides. La fabrication de toutes les parties de la selle peut prendre entre 6 mois et 2 ans selon les modèles. Concernant le bridon, le mors est fabriqué en cuivre. Il comprend une gourmette reliée à un anneau attaché au mors qui a une action de levier, ce qui le rend très efficace pour arrêter les chevaux. Les montants sont recouverts de broderies, de la tétière par un collier qui descend jusqu'au poitrail en se terminant par un pompon. Le frontal recouvre tout le front du cheval jusqu'à l'arcade sourcilière d'où partent des passementeries qui descendent jusqu'à la moitié du chanfrein. Des colliers de poitrail fixés à la selle sont également recouverts de broderies et de passementeries. Aujourd'hui, les véritables artisans marocains luttent pour préserver cet héritage face à une concurrence qui propose des produits standardisés et industrialisés. Bien sûr, maintenant, nous allons parler de l'acteur principal de l'Atbourida, qui est le cheval. Au Maroc, la présence d'un cheval dans une cérémonie symbolise la fierté et la solennité. C'est pour ça que les chevaux ne travaillent pas dans les champs. Les chevaux montés au cours des bourridas sont présentés comme des barbes ou des arabes barbes. Nous avons consacré une émission au cheval au Maroc en 2017 avec Michel et nous vous racontions l'histoire des chevaux dans ce pays. Vous pourrez la réécouter en cliquant sur le lien que je remettrai sur la page Facebook des messagers du cheval. Nous vous avions également présenté le livre du docteur Yassine Jamali consacré au cheval barbe dans notre émission Les Reines de Noël en décembre 2020. Elle sera également disponible sur notre page. Pour toutes ces raisons, je ne vais pas développer cette race de chevaux dont le berceau est le Maghreb. Néanmoins, comme l'ont souligné tous les défenseurs de la race barbe, l'essor de la bourrida au XXe siècle a favorisé un cheval métissé de races européennes, dont des races lourdes françaises. Aujourd'hui, ces chevaux n'ont plus grand-chose en commun avec les coursiers que Delacroix avait pu voir. Dans une interview que j'avais faite du docteur Jamali, celui-ci m'avait confié, je cite, « Quant au cheval de Fantasia, il faut à mon avis prendre acte de la création de cette population par le marché qu'il a désiré. Elle doit être reconnue comme une race à part, entière, bien distincte du barbe, et vivre sa vie de race d'apparat, magnifique, mais inapte au sport de haut niveau. » C'est également ce que dit Ryan Harmed, membre du comité exécutif de l'Organisation mondiale du cheval barbe et juge international de concours de modèles et allures dédiés à cette race. Voilà ce qu'écrit cet éleveur algérien dans son livre consacré au cheval barbe. Aujourd'hui, on voit apparaître dans le nord de l'Atlas tellien, et en particulier à l'ouest du pays, un cheval qu'on appellera cheval de Fantasia. Ce cheval est grand de taille, il est très prisé des cavaliers de Fantasia. Il est le produit des différents croisements de toutes les races françaises importées en Algérie depuis 1886 jusqu'en 1986. Ce cheval de grande taille est devenu un important débouché en Algérie et dans tout le Maghreb pour les cavaliers de Fantasia. Afin de ne pas se détourner du label barbe, ce cheval doit être standardisé, répertorié et catégorisé afin de le différencier du cheval barbe authentique. Aujourd'hui, le cheval de Fantasia est appelé à tort barbe. Il est urgent de lui donner un nom spécifique. Cheval magnifique, cheval de parade, le cheval de Fantasia contribue avec ses cavaliers et cavalières à nous offrir un spectacle unique. L'équitation de guerre subsiste aujourd'hui de manière beaucoup plus spectaculaire et pacifique grâce à la bourrida qui fédère le peuple marocain et le Maghreb en général, fier de ses racines. Notre émission est terminée. Bonne semaine à tous et à toutes et rendez-vous pour une prochaine émission.